Césure.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission du mois de mars pour Césure. Salut Bastien.
Salut Olivier.
Alors aujourd'hui, on a un programme assez varié à vous proposer. Nous allons faire l'agenda, comme tous les mois, vous donner les bons plans, les astuces, les bons concerts, les jolis spectacles, les bons spectacles. Ensuite, on va vous parler de l'œuvre West Side Story, Roméo et Juliette. Et pour finir, un reportage auprès d'un orchestre de jeunes, on vous en dira plus tout à l'heure. Et enfin, nous recevrons un invité mystère. Je ne vais pas dévoiler de qui il s'agit, mais c'est du lourd. Restez avec nous aux alentours des 20h40, l'invité mystère, ça va envoyer.
Ça va être énorme.
Alors, sur la place théâtrale de la région, que se passe-t-il, Bastien ?
Alors, ce mois de mars, écoute, on a pas mal de créations, de choses assez récentes. Pour commencer, je vous propose d'aller au théâtre Le Crève-Cœur, à Coligny, voir une pièce écrite par Valérie Poirier, une genevoise, mise en scène par Pietro Musio, avec Camille Figueroa, Christian Grégory et Pietro Musio. Déjà, juste le casting, ça promet. C'est un spectacle qui a pour thème l'autre.
L'autre.
Voilà, l'autre. Mais pas un autre éloigné, un autre qui peut-être sommeillerait en nous depuis toujours, un autre qui pourrait brutalement se manifester, faire irruption dans le parcours jusque-là bien réglé d'une vie et provoquer un changement radical de repère, d'histoire ou d'identité.
D'accord.
Voilà, c'est le premier spectacle. Quelques informations. Du 6 mars au 1er avril, voilà, au théâtre Le Crève-Cœur à Coligny. Ensuite, je vous propose d'aller à la Comédie de Genève, voir un spectacle Lampedusa Beach et Lampedusa Snow. C'est à la Comédie du 13 au 25 mars 2018. C'est écrit par Lina Proza, mis en scène par Maryse Estier et Simone Audemars. Ce sont deux monologues, le premier Lampedusa Beach et le deuxième Lampedusa Snow. Deux monologues d'une écrivaine donc sicilienne, Lisa Proza, qui parle des migrants qui chaque jour tentent de fuir la guerre et la misère en passant à l'Occident. Deux textes forts où l'auteur offre une parole poétique à ceux qui ont tout perdu, aux bannis de notre monde.
Ah, donc Lampedusa, cette fameuse île qui était une station balnéaire de premier choix à l'époque et qui maintenant a été dévastée par les crises migratoires.
Voilà, qui maintenant est la porte ouverte à l'Europe pour tous les migrants qui traversent la Méditerranée en petit bateau de fortune.
Lieu de voilà, dramatique.
Oui. Et le dernier spectacle que je vous propose d'aller voir, c'est au Théâtre de la Parfumerie à Genève, du 13 au 25 mars 2018. Ça s'appelle Fuchsia saignant, de Anna Lemonaki. On en a déjà parlé dans Césure. C'est écrit et mis en scène par Anna Lemonaki. Fuchsia saignant, et qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus ? Ça s'inspire du poème épique crétois Erotokritos et du paysage accidenté de l'Islande. Voilà.
D'accord.
Quelque chose à voir à la parfumerie. Et alors, côté musique, qu'est-ce qu'on va voir ce mois-ci ?
Alors,
qu'est-ce qu'on va écouter ?
Ouais, ce mois-ci, c'est les orchestres de jeunes qui sont à l'honneur, de jeunes professionnels ou de jeunes motivés tout court. Donc, le vendredi 9 mars à 20h30, à ne surtout pas rater, au Victoria Hall de Genève, l'orchestre roman des jeunes professionnels sous la direction de Guillaume Bernet va interpréter avec le chœur Laudate Deum, la grande messe en ut de Mozart. Donc une des œuvres majeures de l'art classique et puis une pièce absolument fantastique, donc la grande messe en ut de Mozart. Et ensuite, ils ont exhumé de nulle part une pièce de James Macmillan qui s'appelle Credo, qui avait été composée pour l'orchestre de la BBC et qui a été jouée deux fois. Et voilà, c'est une œuvre, j'ai pu l'entendre sur YouTube, qui a l'air vraiment sensationnel aussi avec un chœur, etc. Gros orchestre, grosse formation.
Gros concert.
Donc le 9 mars à 20h30 au Victoria Hall. Et pour nos amis lausannois, le 21 mars à 20h à la cathédrale. Ensuite, un orchestre donc, de jeunes amateurs, mais de grands talents aussi. Le 10 mars à 19h à la salle Franck Martin de Genève. Et le dimanche 11 mars à 17h à la salle Franck Martin. L'orchestre Juventuti, un orchestre qui s'est créé, je crois, c'était qu'on est allé ensemble, c'était mois de 9 ans, il me semble.
On a vu le premier concert.
Voilà, un orchestre de jeunes qui veut un peu pousser les barrières et puis faire des nouveaux codes, du moins c'est leur souhait. Sous la direction de Benoît Durand et d'Amanta Nazution. Ils vont jouer la symphonie 104 London de Haydn, donc une des dernières symphonies de Haydn, à la suite Peer Gynt de Grieg, et ensuite des œuvres de Mendelssohn. Et voilà. Donc ça va être aussi un beau concert, donc le 10 mars à la salle Franck Martin, si vous voulez voir une belle jeunesse qui se donne, ça va être super. Et enfin, l'ensemble Microcosme, on en avait déjà parlé à la première émission, qui est en résidence actuellement à l'église de Combières pour les musicales de Combières, va jouer le 17 mars à 20h30 des œuvres, donc les concertis pour clavecin de Jean Jean-Sébastien Bach, avec notamment Georges Kiss comme soliste, qui est quelqu'un qui a une carrière fantastique et qui est une référence dans le monde du clavecin. Donc ça, ce sera le 17 mars à 20h30 à l'église de Combières. Voilà. Directeur musical, Franck-Édouard Bernard.
Dans le cadre des musicales.
Dans le cadre des musicales, voilà. D'accord. C'est au château de Combières, hein, une place magnifique en plus.
Oui.
Mais je vous propose de passer maintenant à la présentation d'une œuvre. Attention, tube.
Maria. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single
Maria de Leonard Bernstein, de sa musique, de son musical West Side Story. Alors pourquoi vous parlez de West Side Story maintenant, au mois de mars ? Parce qu'en 2018, nous fêtons les 100 ans de la naissance de Leonard Bernstein et les 50 ans de la création de West Side Story.
Ah, dis mais, donc.
Eh ben oui, ça fait deux anniversaires.
100 ans de Bernstein.
Ah, 100 ans de Bernstein. Bastien, peut-être tu peux nous en dire un peu plus concernant le livret, l'histoire.
Bah, alors l'histoire est tirée d'une histoire terriblement célèbre, à savoir Roméo et Juliette de William Shakespeare. Roméo et Juliette, écrite certainement entre 1591 et 1595. Une tragédie de William Shakespeare, bien que la pièce soit ponctuée par des scènes un peu plus comiques. Alors, je vous la fais courte pour le résumer.
Ouais, hein, s'il te plaît.
On fait ça.
Parce qu'il y a encore des choses.
Il y a pas mal à dire, ouais. Alors, je vous la fais courte. Roméo, qui fait partie de la famille des Montaigu, est amoureux de
Juliette.
Et non, de Rosaline.
Ah mince.
Et voilà. Mais bon, mais celle-ci le repousse. Et bon, alors pour se consoler, il va avec ses potes Benvolio et Mercutio à la fête organisée par les Capulet, la famille Edmi des Montaigu à Vérone. Ils donnent une fête en l'honneur de leur fille Juliette. Là, Roméo voit Juliette pour la première fois. Il tombe follement amoureux. Malheureusement, ils découvrent qu'ils font partie chacun des deux familles rivales. Alors, ils décident de se marier en secret chez le frère Laurent, qui les marie. Mais au début de l'acte 3, Roméo, accompagné de Mercutio et Benvolio, tombe sur Tybalt, qui fait partie de la famille Capulet, donc la famille de Juliette. Roméo refuse de se battre. C'est son cousin, c'est Mercutio qui prend la place de Roméo. Mercutio est blessé mortellement, désespéré. Roméo tue Tybalt, des cousins de Juliette. Terrible. Le prince alors de Vérone décide de condamner Roméo à l'exil.
Ouais, ça le fout mal pour le mariage quand même.
Ah, ça le fout carrément mal, ouais. Et donc Juliette apprend la terrible nouvelle. Ils réussissent quand même à passer une nuit de noces ensemble avant que Roméo ne parte au matin direction Mantoue, à quelques pas de Vérone. Mais les Capulet ont décidé de se hâter pour marier Juliette au comte Paris. Juliette refuse évidemment, alors elle va voir le frère Laurent pour une solution. Le frère Laurent lui file une petite fiole avec un poison qui feint la mort. Donc Juliette l'avale, le matin de ses noces, la nourrice de Juliette la trouve, elle croit la trouver morte dans son lit. Alors ils font tout un pataquès, évidemment. C'est terriblement triste pour cette famille.
Tu m'étonnes.
Alors, ils la mettent dans le caveau des Capulet. Le frère Laurent avait prévu de prévenir Roméo de cette affaire. Seulement, à cause d'une épidémie de peste, le messager n'a jamais pu aller jusqu'à Roméo, et Roméo a simplement appris la mort de Juliette. Il va dans le caveau des Capulet, il la voit morte, et il se suicide en buvant un poison.
Il aurait pu attendre.
Non,
quand
c'est
même.
Terrible. Non, mais... Juliette se réveille. Juliette se réveille juste après. Elle le voit mort. Et là, elle comprend un peu l'affaire. Elle se suicide avec le poignard de Roméo. Et alors là, avec ces deux morts, le prince, le père Montaigu et les Capulet se retrouvent au cimetière où le frère Laurent leur raconte toute l'histoire et les deux familles se réconcilient sur la tombe de leurs enfants. Et fait court.
Alors, c'était court, c'était bien. Mais West Side Story, c'est justement exactement inspiré de l'histoire de Roméo et Juliette, enfin, le Roméo et Juliette de Shakespeare, mais ça se passe à Manhattan, à Harlem, pour être plus précis, donc à New York. Et les deux clans sont les Jets, qui représentent la classe ouvrière blanche américaine, et les Sharks, les requins, qui sont plutôt la deuxième génération d'émigrés de Porto Rico. Et donc, petite anecdote, à l'origine, l'histoire s'appelait East Side Story, pas West Side Story, parce qu'ils voulaient la faire à Los Angeles, entre une famille italo-américaine et puis une famille juive. Et puis le conflit était justement, en fait, par rapport à l'antisémitisme d'un côté, qui était aussi à l'époque présent, et puis les autres, c'était les juifs aussi qui se sentaient chez eux, à juste titre. Enfin, voilà. Et donc, cette histoire a été élaborée. Ils ont fait tout le livret, etc., autour de ça, avec l'histoire de Roméo et Juliette. Et au final, ils se sont dit, mais en fait, cette histoire, elle existe déjà. Parce qu'à l'époque, c'était un sujet brûlant. Et puis, sur toutes les bouches, il y avait ces conflits entre catholiques et juifs, voilà, aux États-Unis. Et donc, ils ont complètement annulé l'histoire. Et ils ont repris 5 ans plus tard pour faire la création, qui s'est fait pas sans mal. Alors, ce qui a révolutionné la place américaine, le paysage musical américain, c'était la modernité des musiques, parce que c'est beaucoup de musique de danse, c'est un ballet, en fait, pratiquement plus qu'un musical. La noirceur de l'histoire aussi était quelque chose... Les gens ne croyaient pas en ça. Ceux qui devaient donner de l'argent, ils disaient « Mais jamais les gens vont payer pour voir des gens mourir à l'appel, et puis s'entretuer, etc. » Et aussi, tout ce qui est les histoires familiales, les musiques populaires qui étaient transformées en musique un peu contemporaine, entre guillemets, pour l'époque, et les problèmes sociaux complètement actuels en 1958-57, le racisme, etc., donc toute la haine raciale et les gangs de rue, évidemment. Voilà, le projet est tombé à l'eau plusieurs fois, et puis au final, ils ont décidé de reprendre la chose, et le librettiste était Arthur Lawrence, et puis le compositeur, Leonard Bernstein, comme on dit en Suisse allemande. Donc les thèmes ont été changés, donc avec cette famille d'Américains et ces familles portoricaines. À la création, petite anecdote aussi, ils ont doublé le nombre de répétitions de ballet comparé aux autres musicals parce qu'ils trouvaient important que la place, la danse soit vraiment complètement aboutie. Et ce qui a fait un petit scandale parce qu'ils disaient, ouais, pour eux, on peut payer 4 semaines de plus, etc. Et au final, c'est rigolo parce que maintenant, avec le recul, c'est devenu une œuvre complètement mythique. Mais à l'époque, ils ont dû se battre pour tout, pour chaque centime. Et voilà, ils ont dû se battre. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de ces deux gangs, peut-être peut-on écouter la chanson des Jets, Jet Song.
On peut l'écouter.
Ce qui arrive tout au début de la comédie musicale.
Against the Sharks, we need every man we got.
Tony don't belong anymore.
Cut it, action boy. I and Tony started the Jets.
Well, he acts like he don't want to belong.
Who wouldn't want to belong to the Jets?
Right. He's always come through for us, and he will now. When you're a Jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a Jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. Company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a Jet, you stay a Jet.
I know Tony like I know me. I guarantee you can count him in.
In, out, let's get cracking. Where are you gonna find Bernardo?
At the dance tonight, at the gym.
But the gym's neutral territory.
I'm gonna make nice there. I'm only gonna challenge you.
Great, Daddy O.
So everybody dress up sweet and sharp and meet Tony and me at 10.
Oh, when the Jets fall in. Chicks dig us in our jet black
You're a jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with the heavyweight crown. When you're a jet, you're the swinginest thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The jets are in gear. Our cylinders are clicking. The sharks are steered clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken.
Voilà, c'était la chanson des Jets de West Side Story, composée par Leonard Bernstein et dirigée par lui-même avec l'Orchestre National d'Israël.
Donc ça, Sofer, c'est l'enregistrement qu'on peut trouver. Il existe un film du making of,
ouais,
de cet enregistrement.
Oui, absolument. Il y a un making of de l'enregistrement de ce CD avec des personnalités comme... enfin, José Carreras ou comme ça. Je vous encourage à aller sur YouTube, mettez West Side Story Making Of, ça dure à peu près une heure et c'est passionnant de voir comment il travaillait. Bernstein était vraiment assez dur. Oui, Bastien m'a fait remarquer pendant qu'on écoutait le morceau qu'en fait c'était 60 ans de West Side Story et pas 50 ans, je me suis trompé. Voilà, on va continuer du coup. Alors Tony, donc Tony c'est Roméo. Oui, dis-moi.
Oui, voilà, oui, Tony c'est Roméo et Juliette, ouais. Mais je pensais aussi à quelque chose, c'est que si cette œuvre est aussi célèbre, c'est grâce au film qui a été fait de cette comédie musicale.
Ah oui, bah bien sûr. Oui. Alors, donc évidemment, le musical a eu son succès. Ensuite, un film a été fait en 1960. Bah, justement, tiens-toi bien, le film a obtenu 10 Oscars.
Ah voilà, ah ouais, quand même.
Ouais, 10 Oscars.
Ouais, c'est mieux que les tuches, quoi.
Ouais, c'est mieux que les 10 Oscars, voilà, pour un film qui a traversé les continents et les salles de cinéma. Oui, donc Tony, c'est Roméo et Maria, c'est Juliette. Et petite anecdote, pour la création au musical, ils avaient prévu pour jouer Tony, tiens-toi bien, oui. De nouveau, encore, décidément, James Dean.
James Dean.
James Dean, qui est mort malheureusement d'un accident de voiture, comme tout le monde le sait, voilà, un peu avant. Et du coup, ils ont dû trouver quelqu'un d'autre, mais ça aurait été rigolo d'imaginer James Dean dans le rôle de Tony. Donc la création a vraiment été parsemée d'embûches parce que personne ne croyait à ces thèmes et à la noirceur des choses et à tous ces thèmes aussi concrets de racisme et les problèmes sociaux, etc. Et attends, ce qui en est l'incarnation, c'est le décor. Donc sur toutes les affiches de West Side Story, vous voyez une sorte d'échafaudage. Il y a un fond rouge et puis l'échafaudage en blanc, voilà, qui a sur tous les DVD, les CD, les affiches, etc. C'est tout simplement parce que les gens qui devaient payer les décors ont dit non, nous on ne paye pas. Parce que si c'est pour imiter un immeuble minable du Harlem, c'est hors de question qu'on mette de l'argent, vous vous débrouillez. Et du coup, ils ont réussi avec des briques et de broc justement de faire un mur et puis mettre un échafaudage devant. Et c'est comme ça que c'est devenu le symbole en fait de West Side Story, juste parce qu'ils ne voulaient pas mettre de l'argent pour refaire un immeuble des bas quartiers. Et puis voilà, pour conclure, une petite anecdote encore, c'est parce qu'il y a un spectacle qui a duré 70 ans, 60 ans. Le texte écrit par Arthur Laurent a été revisité par lui-même jusqu'en 2009.
Ah ouais.
Donc composé en 1957, 58, ouais. Et revisité jusqu'en 2009, tout simplement parce qu'il y avait des chansons comme I Want to Be in America, comme ça. Ils hésitaient à y mettre en espagnol pour le gang de portoricains. Ils pensaient que ce serait plus concret d'avoir cette délinquance juvénile en espagnol et que ça ferait plus, plus sérieux. plus sérieux en espagnol. Et voilà, donc il y a des versions en espagnol, en anglais qui ont varié. Puis maintenant, bon, celle en anglais, évidemment, plus célèbre. Donc, on va finir maintenant par écouter un morceau qui s'appelle A Boy Like That. C'est quand Tony a tué le frère de Maria et puis que Maria ne lui en veut pas tant que ça. Et puis que la cousine arrive et lui dit « Tu ne peux pas aimer un garçon qui a tué ton frère. » Voilà. Et oui, juste petite différence entre le Roméo et Juliette de Shakespeare, oui, et le West Side Story. C'est qu'à la fin, ils ne meurent pas tous les deux. C'est Tony qui apprend la mort de Maria, la mort simulée, parce qu'en réalité, c'est un mensonge que quelqu'un dit pour les énerver. Et puis, complètement dévasté, il demande à Chino de venir le tuer. Et puis ensuite, quand il arrive dans une boîte de nuit, il voit Maria en face de lui. Et à ce moment-là, Maria vivante, Chino arrive, tue Tony. Et puis ensuite, ils partent tous en procession douloureuse avec le cadavre de Tony. et puis Maria qui est toujours vivante comparée au Roméo et Juliette. Donc, Oh Boy Like That, dirigé par Bernstein.
Et après, on te retrouvera directement hors du studio pour aller interviewer
ce fameux orchestre.
Exactement. À tout à l'heure.
Bonjour Bastien, salut les studios. Nous nous trouvons au petit Lancy en compagnie de l'orchestre Juventuti avec un de ses deux chefs, Benoît Durand. Salut Benoît.
Bonjour Olivier.
Et deux superbes musiciennes, Alison et Laura, qui sont avec nous.
Bonjour.
Alors. Ouais, bonjour. L'orchestre Juventuti, on en est à quelle phase? Il y a les concerts donc, le 10 et 11 mars à la salle Franck Martin, le 10 à 19h et le 11 à 17h. Monsieur Maestro, où en est-on? Ça va bien?
Ah ben là, on est dans la toute dernière ligne droite, puisqu'on est aujourd'hui, c'est la dernière répétition. Il restera à la générale samedi matin et ensuite concert samedi dimanche. Du coup, on est vraiment dans la dernière ligne droite.
Et ils sont prêts?
Ah, ça.
C'est vrai. Ouais. C'est le même avis pour les musiciennes?
Ça, là, il y a la pression qui monte. On est impatients de remettre ça. Le premier concert s'était super bien passé, mais ça va bien se passer. On est confiante.
Très bien. Bah, justement, vous parlez de premier concert. Donc là, c'est la deuxième série de concerts pour cet orchestre. Alors, comment est né le projet? L'orchestre Juventuti, c'est tout récent, ça a moins d'une année. Laura, peut-être?
Alors, c'est vrai qu'il faut remercier Amanda pour ça, l'autre chef qui n'est pas présent aujourd'hui. Grâce à son idée et de réunir des amis pour monter cet orchestre de jeunes motivés, on a réussi à rassembler la motivation, l'envie de travailler et de performer avec de bons chefs et des gens qui essayent d'expérimenter et d'évoluer dans cette expérience musicale. Donc l'évolution de l'orchestre dépendra essentiellement de la motivation et surtout de l'envie de participer.
Ouais.
Et de remercier Amanta de cette naissance, mais de vouloir aussi en faire partie.
Justement, ben là, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Moi, j'étais venu vous écouter au premier concert, et ce qui m'avait frappé dans votre programme, c'était cette volonté de changer un peu, de secouer le cocotier, changer les codes, les choses, toutes les traditions du classique. Est-ce que vous avez, comment vous pensez faire ça, Benoît? Pour toi, qu'est-ce que vous essayez de changer et qui est vraiment visible?
Alors, pour le premier concert, on avait une création d'un ami compositeur qui s'appelle Michel Godel. Du coup, ça permettait de mêler de la musique classique habituelle et puis de la musique un peu contemporaine. Et puis, là, pour ce concert, il est quand même assez classique, hormis une vis qui sera un peu différent.
Une petite surprise.
Surprise. Et puis, en fait, c'est surtout pour le programme qui arrive bientôt où on va mêler la musique et la danse.
Ouais.
Alors, tout n'est pas encore fixé, mais...
Musique et la danse, mais sur de la musique écrite pour.
Non, justement, enfin, on ne fera pas nécessairement de la musique de ballet avec des danseuses, on fera de la musique classique habituelle, hors ballet, des mouvements de symphonie ou des choses comme ça, et les danseuses danseront par-dessus.
On se réjouit, on l'annoncera avec plaisir. Ouais. Alison, peut-être les musiciens, j'ai l'impression, enfin, moi, je vous ai vu à la répétition hier, il y a vraiment une osmose, on sent que vous êtes tous des copains, mais copains, copines, d'où?
Alors la plupart, on s'est rencontrés à l'orchestre du collège.
Ouais.
On est beaucoup au sein de la filière pré-professionnelle au Conservatoire de Genève. Plusieurs sont en HEM. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de relations justement à Genève, entre tous les musiciens, on les côtoie souvent. Et au sein du collège, c'est vraiment... Le projet, c'était vraiment de rassembler des gens qu'on connaisse déjà et de se mettre ensemble, de se motiver. Et je pense que la cohésion, elle vient aussi du fait que dans cet orchestre, on n'essaye pas de dire que le chef est au-dessus des autres et gère absolument tout, mais c'est vraiment, tous les musiciens sont impliqués dans le projet, on cherche à ce que tout le monde ait une part à faire et à proposer des idées, etc.
Alors que c'est très démocratique, en fait.
Mmh. Voilà, tout le monde contribue.
Tout le monde contribue à la chose, ouais. Et puis alors Benoît, toi qui dirige aussi une partie du concert, t'es corniste professionnel, on t'a vu jouer avec tous les orchestres de la région, OSR, orchestre de chambre, de Genève, de Lausanne, etc. Et maintenant, depuis septembre, ta vie bascule un petit peu.
Oui,
et ouais, maintenant, c'est la baguette à la main que, que ça continue.
Non, c'est vrai, c'est marrant, c'est tout nouveau, je n'avais jamais fait avant le mois de septembre. Et puis là, il y a 2-3 projets qui se montent.
Et puis comment on passe de l'autre côté du miroir?
Alors là, c'est un peu pour le coup grâce à Amanta.
Ouais.
Et qui m'a proposé de faire ce projet avec lui. Et puis j'ai été recruté par une harmonie pour le diriger aussi. Du coup, c'est arrivé les deux ensemble.
Oh bah dis donc.
Une harmonie à Bois d'Amont dans le Jura français.
Et puis qu'est-ce que tu dirais en tant que musicien professionnel, interprète professionnel, qu'est-ce qui change fondamentalement quand tu deviens chef? Est-ce que c'est de la confiance en soi? Est-ce que c'est la connaissance ultime?
Peut-être bien, oui. En fait, je ne pensais pas avant que j'arriverais à avoir cette confiance et ce... Il y a à la fois la confiance et puis tout le côté d'organisation et de... Et moi, ce qui me faisait peur vraiment, c'est de parler à un public, à une foule et à être capable de passer des idées et tout ça. Et finalement, j'ai l'impression d'y arriver.
Ouais. Et puis si je peux me permettre, ce qui est génial avec, en ayant des chefs comme ça qui émergent de cette façon-là et des musiciens qui essayent de continuer dans cette voie professionnelle, c'est qu'on apprend, on donne et on reçoit et on évolue mutuellement. C'est-à-dire Benoît étant professionnel a ce bagage musical, mais vu que la direction est une nouveauté pour lui, tout est presque nouveau pour tout le monde, avec des choses qui ne sont pas tout à fait nouvelles, et on donne et on prend sur certains domaines, et c'est une évolution qui est juste extraordinaire, parce qu'on sent la différence entre la première session et la deuxième.
Ouais, ouais.
Et surtout la communication avec les chefs, parce qu'on apprend à mieux, vu qu'on est au même niveau, même psychologiquement parlant, pas comme dans un orchestre normal où le chef est là, et puis voilà, on le suit. Là, on est plutôt au même niveau, au niveau amitié et puis niveau travail, et donc c'est une communication qui est plus directe et plus efficace pour la musique.
Ouais, puis j'ai l'impression que l'oiseau sort de son nid aussi, parce que hier quand je vous ai vu la répétition, ce qui m'a frappé c'est que tout le monde avait l'air d'être très au courant de qu'est-ce qui se passait, où allait la répétition, où est-ce qu'il fallait ranger ci, ça, etc. Donc je pense que vous aussi, vous parliez, vous êtes rencontrés à l'orchestre du collège, il y a cette sortie un peu de l'off et puis la prise en main. Voilà, par exemple, donc, parmi ces jeunes, en fait, rares sont, enfin, il y en a peu qui pour l'instant sont professionnels. Vous êtes tous un peu dans l'âge, soit avant, soit voilà, entre deux, ou ceux qui ont commencé d'autres études. Bah, Alison, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour un peu avoir une idée représentative de, de l'orchestre?
Alors, bon, bah, j'ai fait beaucoup de musique, mais là, actuellement, je suis à l'université. Donc, la musique n'est pas actuellement ce que je fais en tant qu'étude. Voilà, mais bon, je vais essayer de faire la haute école de musique,
ouais.
Et on verra, mais je pense que vraiment ce qui est vraiment intéressant dans l'orchestre, c'est que pour la plupart des musiciens, on est plus qu'amateur, dans le sens où on a vraiment des motivations on a la volonté d'aller plus loin, et on ne veut pas simplement s'arrêter à avoir des partitions, s'asseoir sur la chaise, jouer sa partie. Voilà, il y a vraiment une implication qui est plus importante, et ça je le ressens vraiment. Je pense que autant pour moi justement qui suis à fond dans la musique en plus de l'université, je pense que c'est la même chose pour pas mal de musiciens dans l'orchestre, et je pense que c'est aussi ça qui permet à l'orchestre d'évoluer si vite et d'arriver à un tel niveau si rapidement. Je pense que c'est vraiment important.
Et
si je peux compléter, en fait, notre cible vraiment de musiciens, c'est tous ces musiciens qui ont fait les classes pré-pro ou l'orchestre du collège, à des niveaux assez élevés et dans des ambiances d'orchestre de jeunes qu'on a pu connaître, mais qui ne sont pas rentrés à l'HEM, soit parce qu'ils ne voulaient pas, soit parce qu'ils n'ont pas fait.
Ah, la haute école de musique, pour préciser.
Oui,
voilà. Non, mais tout le monde n'est pas dans notre jargon de tous les jours.
C'est vrai, et du coup, en fait, c'est tous ces gens-là, en fait, ils arrivent à des niveaux assez élevés. Il n'y a peut-être pas l'orchestre qui permet de jouer à des niveaux à des niveaux assez élevés, avec une certaine exigence et l'ambiance qu'on peut avoir à l'orchestre de jeunes. Du coup c'est c'est l'esprit du N2T.
Si on veut parler justement de ces orchestres de jeunes, parce que le mois passé dans l'émission on a parlé aussi de la musique comme moyen d'intégration, par exemple la musique à l'école ou comme ça, et puis typiquement vous êtes pratiquement tous issus des conservatoires, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que dans une formation et une éducation d'adultes, je veux dire, c'est un rôle vraiment important, la musique, cet esprit de groupe?
Je pense que tout dépend de l'implication des musiciens au sein de l'orchestre, mais la plupart du temps, oui, énormément. Je vois vraiment, il y a une cohésion qui s'installe au sein de n'importe quel orchestre, qui fait progresser, qui même pour la vie de tous les jours, je pense que relationnel, niveau implication, même ce qui ne concerne pas la musique, je pense que c'est vraiment
et l'avantage, oui, l'avantage de la musique en général, conservatoire, ou que ce soit formation musicale simplement, que ce soit en orchestre ou musique de chambre ou tout ce qu'on nous enseigne en musique, justement cette écoute qui est essentielle, permet justement cette cohésion. On a du mal à avoir cette cohésion si on fait si on a des études dans un autre domaine où c'est plutôt individuel, c'est de la recherche, ouais, etc. Là, on est tous ensemble et c'est une recherche commune, c'est un travail d'écoute, c'est quelque chose qui a ses fruits que d'un travail en groupe où tout le monde s'écoute.
On essaie vraiment d'évoluer tous ensemble, oui, en même temps, au même rythme.
Et ça, je sais que ça peut être parfois une difficulté, justement, quand le monde de la musique professionnelle arrive chez quelqu'un, sur quelqu'un, voilà, de coup, se rendre compte que ce n'est pas le cas pour tout le monde et qu'il y en a qui sont beaucoup plus en compétition. En tout cas, ce n'est pas le cas ici. Mmh. Moi, l'histoire que j'adore, c'est celle de Laura. Tu joues le violoncelle, tu as commencé il y a 2 ans à peine, je crois. Et maintenant, c'est ta vie, pratiquement.
Oui. Alors ça, c'est mon histoire d'amour avec le violoncelle. J'ai commencé le piano, déjà, quand j'étais plus petite. Mais après, j'ai beaucoup voyagé, changé de pays, donc je n'ai pas pu avoir un cursus normal. Et arrivé à Genève, au collège, tout simplement, on devait choisir soit art, soit musique, en discipline artistique. Et donc, j'ai choisi musique, pensant que j'allais faire architecture après. Finalement, quand je suis tombée face à un violoncelle, même pas en écoutant son son, juste le voir comme ça, j'ai dit je veux prendre le violoncelle et je l'ai pris. Et depuis le premier jour que je l'ai touché, j'ai commencé à travailler et c'est passé de 10 minutes par jour à 4, 5, 6, 8 heures par jour.
Oh là là.
Donc maintenant je suis complètement louée au violoncelle.
Cello junkie.
Exactement.
Cello junkie. Bon, bah
pour l'orchestre, voilà. C'est un moyen de me relier complètement au violoncelle et de...
Ah, c'est le plus beau des moyens, je pense.
Ouais.
Pour finir, on va faire un petit coup de présent, puis un petit coup de futur. Le présent, déjà, si je viens le 10 mars ou le 11 mars à la salle Franck Martin, qu'est-ce que je vais entendre?
Tu veux dire pour les pièces?
Ouais.
Alors, dans l'ordre, on a...
Mendelssohn, les hébrides, l'ouverture des hébrides.
Ça fait comment?
Ta-ra-ra-ra-ra.
Ah, voilà. Non, vieux.
On est rassurés, ils connaissent leur partie.
Ah, Mendelssohn.
Ensuite, c'est le Zviridov.
Ensuite, oui, 3 extraits d'une grande pièce qui s'appelle Snowstorm de Zviridov, donc qui est un compositeur russe méconnu.
D'accord.
Mais donc c'était un élève de Shostakovich et on l'a découvert avec un ami et on a insisté pour le jouer.
Zviridov.
Voilà, Zviridov. Okay.
Ensuite, il y a la symphonie 104, numéro 104 de Haydn, qui s'appelle Londres.
Londres, ouais.
Et puis la première suite de Peer Gynt.
Magnifique.
En fait, il y a un thème général, c'est toute la musique du nord de l'Europe.
Ouais. Mmh. Ah, d'accord.
Les hybrides, c'est l'Écosse. Le Zviridov, c'est la Russie, Londres, et puis la Norvège.
Alors, allons-nous réchauffer avec vous à la salle Franck-Martin le 10 et le 11 mars à 19h et à 17h. Et pour finir, pour conclure, le rêve absolu de l'orchestre, peut-être Benoît qui le dirige, qui le co-dirige. Je sais qu'il y a plein de projets stimulants, notamment la danse, mais un rêve
Déjà, le premier rêve, c'est de durer et de ne pas juste faire un ou deux concerts. Ça a l'air tout bête, mais c'est déjà un objectif.
Bon, en tout cas, on continuera de vous suivre, nous ici à la radio. On vous annoncera les concerts et puis peut-être on passera un de mes morceaux. Faites des bons enregistrements, comme ça après, nous, on inonde la planète.
D'accord.
Bon, ben, merci Laura, Alison et Benoît. Merci à tous.
Merci Olivier.
Voilà. Bon, Bastien, studio.
Le retour de cette interview reportage avec notre invité du jour. On vous avait promis du lourd.
Une surprise.
Eh bien, il s'agit tout simplement de mon co-animateur Bastien Blanchard. Bastien Blanchard, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Alors, tu vas nous parler du spectacle Concentration qui se tiendra du 7 au 10 mars au théâtre de l'Étincelle à la maison de quartier de la Jonction,
oui,
tous les soirs à 20h. Peut-être peux-tu nous expliquer, tu en parleras mieux que moi, Concentration, de quoi s'agit-il?
Alors, Concentration, c'est très simple. C'est une émission de télé-réalité qui se déroule dans un camp similaire au camp d'extermination nazi. C'est qu'on prend des gens au hasard dans la rue, des candidats, qu'on enferme dans un camp et tous les jours, des capos qui ont passé un casting pour être là-dedans, des capos viennent décident de qui doit vivre et mourir. Jusqu'au moment où l'audience commence à stagner, ça fait évidemment une audience incroyable, et qu'on décide de faire voter le public pour savoir qui est tué chaque jour.
Voilà.
Voilà, ça c'est le pitch.
Et puis il y a un peu plus, on ne va pas tout révéler. Mais justement, ce que tu ne dis pas et que je révèle, c'est que c'est tiré de l'ouvrage d'Amélie Nothomb, Acide sulfurique.
Exactement, c'est une adaptation au théâtre. On a décidé d'adapter un roman au théâtre.
Alors voilà, donc toi tu fais la mise en scène. Il me semble que tu joues aussi quelques rôles secondaires.
Oui.
Voilà. Comment tu procèdes comme metteur en scène et comme écrivain, du coup, parce que tu as fait la partie écrite, pour adapter un roman qui n'est pas une pièce de théâtre pour l'arsenic?
Alors, c'est un pari assez intéressant d'adapter un roman. Ça ouvre beaucoup plus de possibilités et de liberté qu'une pièce de théâtre, parce qu'une pièce de théâtre, on a forcément des contraintes d'une scène, quoi.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et que le roman n'a pas. Du coup, le roman peut passer d'un lieu à un autre, peut être dans la tête des protagonistes, etc. Et alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu le roman, on a décidé des scènes qu'on voulait garder et d'autres pas, parce qu'on ne peut évidemment pas tout faire. Et puis, à partir des scènes qu'on avait gardées, j'ai écrit les dialogues là-dessus. Et on est parti, du coup, après, avec un texte de base qui était tiré du roman, et on a ajouté après, pendant les répétitions, notre patte, donc des choses qui ne sont pas dans le roman. Pour faire cette pièce qu'elle soit nôtre.
Voilà. Alors justement, est-ce que tu cherches quand même à capter quelques phrases clés du roman qu'on ne peut pas manquer? Est-ce que des fois il y a un récitant, quelle forme un peu, sans révéler la magie de la chose, mais vu que c'est intéressant de voir une adaptation justement?
Alors on est parti du principe d'avoir que des dialogues. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui raconte l'histoire, il n'y a pas de récitant. Attends, il y a ta question, maintenant j'ai oublié.
Oui, les dialogues clés, où est-ce qu'il y avait un
récitant? Oui, voilà. Donc il n'y a pas de récitant, mais dans le livre d'Amélie Nothomb, il y a des passages aussi dialogués, comme dans beaucoup de romans, et que j'ai essayé de faire en sorte de garder le plus possible les dialogues d'origine.
Oui.
Parce qu'il y a effectivement aussi des phrases qu'on peut pas enlever, sont, si elles sont écrites, c'est qu'elles sont intéressantes pour l'histoire.
Alors justement, j'ai pensé en lisant le roman d'Amélie Nothomb, il y a ce quatrième mur. Donc le quatrième mur, pour nos auditeurs, c'est en fait, si on veut bien, il y a le public et la scène, et puis c'est est-ce qu'on joue avec le public, est-ce qu'on joue pas avec eux. Et quand je pensais à cette histoire qui en fait comprend la cruauté passive des téléspectateurs dans cette télé-réalité, est-ce que tu joues un peu avec le public?
Alors ça, c'était toute notre grande question, c'est demander si on faisait vraiment voter les spectateurs qui viendraient voir le spectacle.
Avec les risques que ça peut engendrer.
Ouais, c'est ça, voilà. Avec tout ce qu'on ne sait pas à l'avance. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de placer le public comme les téléspectateurs. Donc, eux voient ce que les gens voient, donc voient l'émission. Il y a un moment donné où on fait tomber le masque, nous, des personnages, et dans les acteurs, dans le noir, on pose sincèrement la question au public, est-ce que vous pensez que c'est possible? Et est-ce que vous pensez qu'une émission pareille pourrait exister? Est-ce que vous l'auriez regardée? Qu'est-ce que vous auriez fait, etc.
Ouais, bah ça me fait penser à la fameuse expérience de 1000 grammes, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cette espèce de chaise électrique. Il y a eu des jeux télévisés. Voilà, c'est de répondre à des questions. Et puis, il y a un coéquipier qui a une certaine secousse en fonction des réponses pour faire de l'argent. C'est aussi tout le questionnement avec l'âme humaine, justement.
Ouais.
Peut-être j'aimerais te proposer, avant de passer un peu à l'autre côté de l'interview, l'aspect plus historique, d'écouter une pièce que j'ai choisie, qui est donc en fait issue d'un poème de Bertolt Brecht, qui s'appelle « Il y a à Sonnenburg », je vous lis juste les quelques premiers vers. « Il y a à Sonnenburg un camp allemand, prisonniers et gardes y sont tous maigres. Les affamés du dehors surveillent ceux du dedans pour qu'ils y restent toujours à crever de faim. » Mis en musique par Hans Eisler.
Draußen ihn befahren die drinnen, dass die nicht aufstehen und dem Hunger.
L'orchestre de Radio France, qui interprète une partie de la Deutsche Symphonie de Hans Eisler. Donc, nous revenons avec toi, Bastien, au sujet de ton spectacle Concentration. Donc, un sujet assez grave, voilà, il faut le dire.
Oui,
Concentration, c'est dramatique.
C'est pas la grosse poilade.
Voilà. Donc, dans la réalisation, j'imagine qu'il y a des risques, notamment le fait de peut-être trop singer des nazis ou l'allemand. Enfin, comment, voilà, à quel moment tu as fait un peu la finesse de tout ça ou pour un tel sujet, comment tu te prépares pour éviter les pièges tout en faisant quand même ressortir les éléments historiques importants.
Alors, ce qu'on a, il y a un capot, un des rôles principaux, c'est une capot. On a essayé de la rendre humaine. De pas la monstruiser ou
monstrifier
de pas la rendre monstrueuse en la rendant humaine parce qu'elle est amoureuse d'une des candidates autrement tous les il y a pas vraiment comment dire on il y a aucun moment où vraiment on singe des nazis ou quoi où il y a pas trop ça Autrement, attends, c'était déjà quoi la question ? J'oublie, je pars dans les trucs, puis j'oublie.
Les pièges à éviter, ou du moins les astuces, comment tu te prépares pour un tel sujet ?
Alors, comment on se prépare ? Bah, y a le livre qui aide beaucoup, le fait qu'il y ait une histoire et qu'on arrive à la suivre. Après, je me suis aussi pas mal documenté, j'ai quand même pas mal lu de choses aussi sur les camps de concentration, comment ça se passait, pour essayer de rendre cette émission la plus proche possible de ce qui se passait dans les camps. Évidemment, on y découvre des choses absolument abominables.
Voilà, un ouvrage de référence, par exemple, quelques livres qui pour toi, sont très importants.
Bon, y a déjà, Si c'est un homme de Primo Levi.
Ouais, bien sûr.
Évidemment. Y a un livre aussi, le titre risque de m'échapper, mais c'est Paroles de déportés, ça s'appelle, sur des témoignages en fait, de personnes qui ont vécu dans les camps et qui racontent, il y a plusieurs thématiques, la faim, l'extermination, la déportation, la libération, etc. Et puis c'est totalement... C'est assez cru parce que c'est la réalité, en fait. Et on est face à la réalité, puis c'est assez impressionnant.
Ouais, ouais. Alors, il y a un autre aspect dans cette histoire, je ne sais pas à quel point vous l'abordez, je ne vais pas te le demander, mais il y a quand même toute une polémique autour des noms qu'ont les personnages. Ils ont des numéros, ils ne veulent pas le révéler, c'est très compliqué. Alors moi, je te propose en tout cas de mettre des noms sur les gens qui participent à ce spectacle. Donc, tu veux le dire, je le dis.
Les noms, je vais essayer d'oublier personne. Garance Simon, Salomé Joly, Manon Rocha, Florian Demière et Florian Zemmuller.
Et toi-même.
Et moi. Voilà.
Et toi-même, donc, pour ta première mise en scène professionnelle, si j'ose dire, tu as déjà souvent mis en scène des cours ou comme ça. Mais alors, comment on passe de comédien-interprète à metteur en scène la compagnie sous-traitement avec laquelle tu fais ça. Dis-nous un peu, comment c'est cette nouvelle facette du métier.
Ah, la nouvelle, si je prends la chaise du metteur en scène, c'est plutôt par nécessité, aussi par envie, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais par nécessité du fait que j'aime bien créer mes propres projets. La compagnie sous-traitement, on a déjà créé, par exemple, cet été, où tu as fait partie, Olivier.
Oui.
Mais du coup, c'est un peu un passage obligé, j'ai l'impression. Pour créer ses propres projets, il faut un metteur en scène. Et puis, celui qui a l'idée du projet, en l'occurrence, moi, pour Concentration, du coup, je me fais une idée de ce que j'ai envie de dire à travers cette pièce. Et du coup, bah, c'est un peu un passage obligé d'être metteur en scène. Mais c'est assez intéressant parce que j'essaye aussi d'être très à l'écoute des autres, des comédiens aussi qui jouent, de ne pas avoir cette espèce de dictature du metteur en scène qui décide tout. Surtout en sachant que je suis sur scène de temps en temps, du coup, j'essaye de faire le plus confiance à ceux qui sont aussi à l'extérieur. Et puis, de par la formation que j'ai eue à l'école de théâtre Serge Martin, on passe forcément à un moment donné par, sans que ce soit nommé, par la mise en scène avec des ateliers qu'on doit rendre toutes les 2-3 semaines. Et du coup, on regarde les copains, on se donne des conseils. Et puis du coup, ça passe aussi par là.
Mais est-ce que tu as souhaité que les personnes donc, qui collaboraient, les autres acteurs, comédiennes, voilà, s'imprègnent aussi de ces choses, qu'ils ont lu les mêmes ouvrages que toi? À quel point ils sont proches de ça? Est-ce que vous essayez de rentrer à fond dans cette histoire absolument horrible, ou est-ce que vous essayez de vous en faire votre propre version? Enfin, de toute façon, votre version impropre, je veux dire, mais tu comprends.
Oui, oui. Alors, on essaye de faire notre propre version. Après, j'ai obligé personne à lire des ouvrages là-dessus. Chacun a ses connaissances aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vu des films que je pourrais plus nommer parce que je m'en rappelle plus. Mais on connaît tous, on a tous des bases, historiques, soit à l'école ou des choses qu'on a lues, qu'on a vues. Et du coup, par tout ça, on essaye d'amener, que chacun amène aussi sa vision de la chose. Et vraiment aussi, on s'appuie sur l'histoire. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire est là, l'histoire existe par Amélie Nothomb. Et du coup, c'est d'essayer de la rendre humaine et puis de jouer des êtres humains qui se rencontrent.
Alors maintenant, si tu dois faire venir des gens pour vous voir, fais-nous envie. Quelle esthétique, est-ce que c'est un beau spectacle? Qu'est-ce que c'est pour les enfants? Dis-moi un peu.
Non, alors, je ne suis pas sûr que ce soit spécialement pour les enfants, mais je pense que c'est un beau spectacle. C'est pas horrible.
C'est pas
horrible. On n'a pas voulu dénoncer des choses horribles ou quoi. C'est vraiment, on a essayé de mettre la distance qu'on peut avoir avec la télévision maintenant, avec toutes les horreurs qu'on peut voir à la télé. On a essayé de mettre cette distance-là. C'est quelque chose. On voit rien vraiment d'horrible. C'est uniquement surtout la parole qui est dure. Mais je pense que c'est un beau spectacle. On n'en ressort pas totalement dépité.
Voilà,
c'est pas trop lourd. On a essayé de rendre ça pas léger, mais
comestible.
Voilà, comestible. Voilà. J'allais dire qu'on puisse le digérer. Et puis assez respiré avec de l'espace. Et c'est.
Ouais,
je pense. Et puis ça dure pas très longtemps. Ça dure entre 1h, 1h10, je pense.
D'accord.
Donc je pense que c'est un joli spectacle.
Bon, mais je crois qu'il nous reste. On va gentiment passer à la question.
Mm-hmm.
Je te propose d'écouter une pièce qui a été, elle, composée dans un camp de concentration, enfin un camp de travail, pour tout dire, d'Olivier Messiaen, un compositeur français qui fait partie de Quatuor pour la fin du temps. Et là, c'est la Liturgie de Cristal, interprétée par Paul Meyer à la clarinette et son ensemble. Donc voilà, le quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen, Liturgie de Cristal, le premier mouvement. C'est toujours avec Bastien. Avant de passer à la question, j'aimerais encore rappeler les dates quand même du spectacle Concentration. Donc du mercredi 7 au 10 mars à Théâtre de l'Étincelle, à la Maison de Quartier de la Jonction, à 20h tous les jours. Est-ce qu'on peut réserver quelque part?
Oui, alors soit au... J'ai essayé de me rappeler du numéro de la Maison de Quartier, 022 545 2020, de je sais plus 16h30 jusqu'à 18h30 ou 19h, voilà, je sais plus. Ou alors sur compagniesoustraitement@gmail.com.
Voilà, en tout cas, je vous encourage tous et toutes à aller voir ce spectacle parce que je connais évidemment le travail de Bastien, on a mis depuis de longues dates, et je suis sûr que ça va être fin et puis bien réalisé et qu'on va en sortir, grandi. Quelques projets à venir.
Les projets à venir, alors le prochain projet, ce sera le cabaret de l'innommable et de l'interdit. Ce sera au théâtre du Saltimbanque, dans le quartier des Grottes, la première semaine d'avril. On vous redonnera.
Et puis en septembre peut-être.
En septembre aussi, avec la compagnie Sous-traitement, le prochain projet. L'histoire du soldat de Ramiro Stravinsky qui fêtera ses 100 ans en septembre 2018. Avec orchestre et comédien, et
super.
Une version incroyable. Et je crois que tu es clarinettiste dedans, non, il me semble.
Exactement. Alors, désolé, hein, messieurs, dames, on fait un peu notre pub, mais c'est comme ça. Alors, je te propose de passer à la question de la semaine.
Oui.
En fait, c'est une question un peu ouverte, où je vais aussi participer. C'est l'enfermement comme source d'inspiration artistique. Mmh. Et voilà, les gens qui sont sortis enfermés. J'ai comme compositeur quelques exemples de différentes époques. Il y a notamment Joseph Haydn, compositeur classique, qui travaillait pour la famille princière Esterházy et qui toute sa vie a souffert en fait d'être enfermé, pratiquement pas enfermé, mais qui était entre quatre murs dans le château à devoir composer symphonie, hein, quand même 104 symphonies pour Joseph Haydn, qui toute sa vie a souffert de ça, a dû aller à Londres pour composer d'autres symphonies, mais en fait voilà, a toujours dû soustraire au goût du prince. Mais après, il y a des enfermements beaucoup plus concrets, notamment Shostakovich, sous l'Union soviétique, qui ne pouvait pas vraiment composer la musique qu'il souhaitait tout le temps, parce qu'il était traqué, il était observé à la loupe pour voir si tout convenait.
Qui a, je crois, toujours dormi avec une valise prête à côté de son lit, non?
Voilà, il vivait dans la peur. Je ne sais pas si pour le théâtre, il y a d'autres exemples.
Il y a des exemples de personnes qui travaillaient pour... je pense à Molière, qui travaillait pour Louis XIV, par exemple. Alors comme ça un peu je vois pas, mais pour revenir aussi à l'histoire du soldat, il y a Stravinsky.
Oui, bah il y a Stravinsky, donc Stravinsky, compositeur russe de famille issu de famille aristocratique. Quand la première guerre mondiale éclate, il est en Suisse, il ne peut pas sortir de la Suisse et il ne peut pas non plus retourner en Russie parce qu'avec la révolution rouge il est devenu, si on veut bien, ennemi du peuple, et il va souffrir voilà, pendant 4 années d'être enfermé dans ce petit pays où il va composer l'histoire du soldat justement entre autres. Mais il y a d'autres camps, en parlant franchement de l'enfermement, comme vous venez d'entendre Olivier Messiaen, voilà, lui c'était un compositeur français qui s'est retrouvé dans un camp pour ennemis politiques et puis qui était enfermé, qui a été heureusement bien traité par justement un capot, un officier allemand, un officier SS qui s'était pris de passion pour l'œuvre qu'il composait et qui lui a offert tous les jours du papier et des crayons pour continuer de composer sa musique. Et c'est comme ça qu'il a pu composer le Quatuor pour la fin du temps, qui a même été joué dans le camp en question. Mais après, je pense que l'enfermement, c'est une source d'inspiration parce qu'il y a une contrainte.
C'est ce que j'allais dire aussi. Serge Martin disait une phrase tout le temps, c'est dans la contrainte qu'on trouve la liberté.
Voilà.
Et je pense que le fait de faire de l'art, c'est aussi une manière de trouver sa propre liberté. Et je pense que c'est capital quand on est enfermé de pouvoir s'évader, si on veut, à travers la musique ou le théâtre, la peinture ou que sais-je encore.
Et puis, nous, on a souvent parlé dans cette émission de la musique contemporaine, par exemple. C'est vrai qu'avant ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des œuvres qui ont été tellement géniales et qui ont été écrites avec finesse et puis plein de choses, de détails cachés, parce qu'interdites ou complètement, qui ne seraient pas passées à l'époque. Donc ça a offert voilà, aussi une multitude d'œuvres absolument extraordinaires qui ont apporté beaucoup à notre société. Et puis justement, à la fin de la guerre, la libération de ces contraintes a fait exploser tous les codes parce que tout d'un coup il n'y avait plus de honte, il n'y avait plus de secret, il n'y avait plus de danger. Alors les gens se sont mis à partir dans tous les sens et puis à essayer d'exprimer avec de la musique ce que les mots, eux, ne pouvaient pas dire. Pour donner un petit exemple aussi, je pense à Wolfgang Amadeus Mozart. C'est un compositeur qui, justement, lui, a réussi à se libérer de cet enfermement. Parce qu'à l'époque, tous les compositeurs, comme Haydn, aussi à son époque, étaient à la botte d'un prince ou d'une famille noble, etc. Et lui, Mozart, a été le premier compositeur indépendant. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, Mozart est mort dans la pauvreté. C'est partiellement vrai, mais du moins, il a essayé de vivre de ses opéras, de ses choses, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Et on voit le génie, avec quel génie il a pu exercer son art.
Mais ça me fait penser aussi, pour terminer, que dans beaucoup de pays actuellement, hein, qui sont en guerre ou un régime totalitaire est au pouvoir ou que sais-je encore, il y a un besoin de culture et de théâtre, c'est assez impressionnant. Il y a des choses qui se font. Parfois, on a des compagnies de Syrie, Israël ou que sais-je encore qui viennent parfois en Suisse pour des spectacles. Et c'est toujours des choses incroyables parce que je pense qu'il y a un besoin de culture dans ces moments-là.
Oui, et puis pour revenir à quelque chose d'extrêmement récent, j'ai vu la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques.
Ah, voilà.
On a vu de la techno sud-coréenne ou des choses comme ça. C'est des pays qui crient en fait, qui crient et qui aiment l'art qui est fort et qui incarne beaucoup de force parce que ça leur donne le courage ou ça leur donne la force de continuer à croire en autre chose que leur réalité de tous les jours. Et ça, c'est pour ça que c'est la culture souvent assez violente dans le sens qu'elle frappe les gens plus que violente en soi.
Mais aussi, pour terminer aussi, ces régimes totalitaires, etc., une des premières choses qui contrôlent aussi, c'est l'art et c'est la culture.
Bien sûr, parce que les universités on brûle tous les livres, etc., c'est pour éviter justement que les gens aient accès à la libre, culture, à la libre pensée.
Tu disais Shostakovich sous les soviétiques ou d'autres compositeurs sous le régime nazi, il fallait faire de la musique nazie ou alors on était mal.
Oui, absolument, voilà. Et on ne parle pas de Wagner, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir et c'est faux ce qui a été dit. On va se quitter avec, et vous allez enfin découvrir de quoi il s'agit, le générique de fin de notre émission.
Alors c'est quoi?
C'est la fin du prologue de...
The West Side Story. D'ailleurs, tu joues une version de West Side Story, on a oublié d'en parler.
Oui, j'ai oublié d'en parler. Mars. Le 25 mars, pour le festival Kultur Kersatz dans le canton de Berne, on va jouer avec un quatuor de clarinette toutes les danses symphoniques de West Side Story avec une participation du public. Ils vont faire les gangs, ils vont faire les jets, les sharks, ils vont danser les danses, on va faire tout un truc. Probablement, ça va venir à Genève d'ici un mois ou deux, mais en tout cas, le 25 mars à 18h au centre de Kersatz.
Magnifique. On vous souhaite un bon mois et on vous dit... on se retrouve premier mercredi
d'avril.
Et suivez-nous sur Facebook.
Ciao, ciao.
Ciao.